Les Anglais ont l'expression « passer de la poêle à frire au feu ». En français, on pourrait dire « tomber de charybde en scylla », c'est-à-dire d'un dangereux tourbillon à un récif. Aucune de ces options n'est vraiment réjouissante. C'est un peu ce qui est arrivé au prophète Jérémie. Il fut d'abord jeté dans un puits par les chefs de Juda avant d'être emprisonné par le roi. Ensuite, après avoir été libéré par le chef de la garde babylonienne, il fut enchaîné au cours d'une rafle. Je commence à lire le chapitre 40 du livre de Jérémie. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie lorsqu'il s'adressa à lui après que Nabuzaradan, le chef de la garde, l'eut renvoyé à Rama. Celui-ci l'avait en effet trouvé enchaîné au milieu de tous les captifs de Jérusalem et de Juda que l'on déportait à Babylone. Verset 1. À l'exception de l'appendice à la fin, les chapitres 40 à 44 sont chronologiquement les derniers du livre, bien qu'ils soient suivis de 8 autres qui reviennent sur des événements précédents. Jérémie est enchaîné par erreur. En effet, après avoir été libéré de prison par les Babyloniens, il est retourné à Anatote, dans sa ville d'origine, où il est arrêté par des soldats qui ne le connaissaient pas. Mais le chef de la garde, l'ayant reconnu parmi les captifs, le libère une seconde fois. Je continue. Le chef de la garde l'avait donc fait retirer du convoi et lui avait dit « L'Éternel, ton Dieu, avait annoncé que ce malheur viendrait sur ce lieu et maintenant il l'a fait venir et a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé. Cela vous est arrivé parce que vous vous êtes rendu coupable envers l'Éternel et que vous ne lui avez pas obéi. Maintenant, vois, je détache aujourd'hui les chaînes de tes poignets. » Si tu le juges bon, viens avec moi à Babylone et je prendrai soin de toi. Mais si tu préfères ne pas me suivre à Babylone, reste ici. Vois, tout le pays est devant toi. Va où bon te semblera. Versets 2 à 4. Le chef de garde connaissait très bien la teneur du message de Jérémie. Il parle même comme s'il avait une certaine foi en l'Éternel. Mais il se peut aussi qu'il ne fait que répéter ce qu'il a entendu dire. Jérémie a le choix entre aller avec les exilés à Babylone, où il pourra mener une vie de pacha, ou rester sur place avec les pauvres du peuple, et c'est ce qu'il fait. Je continue plus loin en compressant. Lorsque tous les chefs de l'armée de Juda qui s'étaient dispersés dans la région et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait nommé Guédalia, fils d'Ahikam, comme gouverneur du pays, ils allèrent le trouver à Mitzpah, qui se trouve à 8 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Guédalia leur déclara avec serment, à eux et à leurs hommes, « Vous n'avez rien à craindre en vous soumettant aux Chaldéens. Installez-vous dans le pays, soumettez-vous au roi de Babylone et tout ira bien pour vous. Faites les récoltes de vin, de fruits et d'huile et faites-en provision. Installez-vous dans les villes que vous occupez. » Alors tous les Judéens revinrent de tous les lieux où ils avaient été dispersés. Ils revinrent en Juda et se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpah. Ils firent une abondante récolte de vin et de fruits. Versets 7 à 12. Nous sommes au mois d'août et c'est le moment de la récolte. La nomination de Guédalia redonne confiance aux habitants de Juda qui avaient échappé aux Babyloniens en se réfugiant chez les peuples voisins. Seulement, tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. En effet, on avertit le gouverneur Guédalia que Baalis, le roi des Ammonites, a un contrat sur sa tête. En fomentant des troubles en Juda, Baalis espérait que les Babyloniens, qui jusque-là l'avaient épargné, continueraient à le laisser tranquille. Quant à l'assassin, il s'agit d'un certain Ishmaël de la descendance royale de Juda. Il est jaloux de Guédalia qu'il a supplanté et qu'il considère comme un usurpateur du trône. De plus, il a le gouverneur en haine parce qu'il avait été du parti qui voulait se rendre aux Babyloniens. Malheureusement pour lui, Guédalia ne prête aucune foi à cet avertissement. Ce complot se poursuit dans le chapitre suivant où est décrit de la manière la plus brutale le meurtre du gouverneur et le massacre de tous les Judéens et des soldats babyloniens qui étaient avec lui dans la ville de Mitzpah. Le lendemain, cet Ishmaël de malheur a encore assassiné 80 pèlerins pieux, des Samaritains de race mixte juive et assyrienne. Le texte dit qu'ils avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qu'ils s'étaient fait des incisions. Ils avaient en main des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ces hommes venaient à Jérusalem pour adorer Dieu à l'emplacement du temple détruit, car ce lieu conservait pour eux un caractère sacré. Après le retour de l'exil, les Juifs célébrèrent un jeûne le troisième jour du septième mois en souvenir de ce crime horrible et de la catastrophe qui suivit. Après cette tragédie, tous ceux de la colonie israélite qui avaient échappé au massacre parce qu'ils n'étaient pas sur place, prennent la direction de l'Égypte pour s'y réfugier car ils craignent les représailles des Babyloniens. Mais ils s'arrêtent en route pour aller consulter le prophète Jérémie. Je commence à lire le chapitre 42 en compressant. « Alors tous les chefs des troupes et tout le peuple au grand complet se rendirent auprès du prophète Jérémie et lui dirent « Veuille accéder à notre requête, prie l'Éternel ton Dieu pour ce reste que nous sommes. Que l'Éternel ton Dieu nous fasse savoir quel chemin nous devons suivre et ce que nous avons à faire. » Versets 1 à 3. Cette requête semble très pieuse. Et plus loin, ils promettent d'obéir sans discuter à la réponse que Jérémie leur donnera au nom de l'Éternel. En réalité, ils accepteront seulement de faire la volonté de Dieu dans la mesure où elle sera conforme à leurs désirs. Je continue. Le prophète Jérémie leur répondit « C'est entendu, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, pour vous, comme vous me l'avez demandé, et je vous communiquerai tout ce que l'Éternel vous répondra sans rien vous en cacher. » Verset 4. Précédemment, ces gens ont dit à Jérémie « Prie l'Éternel, ton Dieu !» Mais le prophète leur répond « Je vais prier l'Éternel, votre Dieu !» leur rappelant que l'Éternel est aussi leur Dieu et leur protecteur. Ce ramassis d'Israélites savait qu'il pouvait compter sur Jérémie car il était digne de foi et disait la vérité. Soit dit en passant, c'est aussi ce qui est demandé à tous ceux qui annoncent la parole de Dieu. Leur charge est d'expliquer et d'appliquer à la vie quotidienne tous les préceptes contenus dans les Écritures et pas seulement ceux qui nous chatouillent les oreilles. Tant qu'on dit que Dieu nous aime, on ne rencontre pas trop d'opposition. Mais si on annonce qu'il va juger les incrédules, alors là ça passe très mal. Mais un prédicateur n'est pas appelé à caresser les paroissiens dans le sens du poil. Il doit dire les choses comme elles sont sans essayer d'en arrondir les angles. « Le temps viendra, écrit l'apôtre Paul, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » Fin de citation. Je continue le texte de Jérémie un peu plus loin. 10 jours plus tard, l'Éternel adressa la parole au prophète Jérémie. Verset 7. Jérémie est un homme droit comme un i qui proclame la parole de l'Éternel telle qu'elle lui est révélée, qu'elle plaise ou pas. Il ne se permet pas d'exprimer une opinion personnelle et ne parle que lorsqu'il a reçu une réponse formelle de Dieu. Je continue plus loin en compressant. « Si vous restez dans ce pays, j'y accomplirai votre restauration et ne vous y détruirai pas. Je vous y implanterai et ne vous en arracherai pas. Car je renoncerai à vous faire du mal comme je vous en ai fait. Ne craignez plus le roi de Babylone dont vous avez peur. Je vous témoignerai de la compassion afin qu'il vous soit favorable et qu'il vous laisse retourner sur vos terres. Mais si vous dites « Non, nous irons plutôt en Égypte », tous ceux qui décideront de se rendre en Égypte pour y résider périront par l'épée, par la famine ou par la peste. Il n'y aura ni rescapés ni survivants à ces fléaux que je déchaînerai contre eux. À vous, le reste de Juda, l'Éternel dit « N'allez pas en Égypte, sachez bien que je vous ai averti aujourd'hui. » Versets 10 à 19. La réponse de l'Éternel est claire comme de l'eau de roche. Le désir de retourner en Égypte était contraire à sa volonté, car une telle démarche revenait à mépriser et renier l'œuvre de libération autrefois accomplie par Dieu envers les Hébreux et à bafouer l'alliance de la loi sur le mont Sinaï. C'est pourquoi Jérémie adresse un avertissement très solennel aux Israélites qui devraient savoir que ces paroles s'accomplissent toujours et donc qu'ils peuvent compter sur la promesse qu'il leur donne d'être en sécurité dans Juda. Je continue et finis ce chapitre. Car vous vous êtes fourvoyé lorsque vous m'avez délégué vers l'Éternel, votre Dieu, en me disant « Prie l'Éternel, notre Dieu, pour nous, puis fais-nous savoir tout ce que l'Éternel te dira, et nous le ferons. Je vous l'ai fait savoir aujourd'hui. Mais vous n'écoutez pas l'Éternel, votre Dieu. Vous ne tenez pas compte de tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. » Versets 20 et 21. Jérémie se rend très bien compte que les Israélites vont revenir sur l'engagement qu'ils ont pris d'obéir à l'Éternel. Je commence maintenant à lire le chapitre 43 en compressant. Dès que Jérémie eut fini de rapporter à tout le peuple toutes les paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur transmettre, Azaria et Johanan et tous ces hommes orgueilleux répondirent à Jérémie. « Tu mens ! L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas chargé de nous dire « N'allez pas en Égypte pour vous y installer. » C'est Baruch qui t'excite contre nous. Il veut nous livrer aux Chaldéens pour qu'ils nous tuent ou qu'ils nous déportent à Babylone. Versets 1 à 3. Même rengaine que celle des Israélites déportés. Ils disent que Dieu n'a pas parlé ainsi parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Toutefois, ces mécréants, n'osant pas attaquer directement Jérémie, ils s'en prennent à Baruch, son secrétaire. Je continue en compressant. Ainsi, Johanan, les chefs des troupes et le reste du peuple n'obéirent pas à l'Éternel. Ils ne restèrent pas au pays de Juda. Ils prirent tout le reste de la population de Juda qui était revenue pour habiter dans le pays de Juda, de toutes les nations où elles avaient été dispersées, ainsi que le prophète Jérémie et Baruch. Ils se rendirent en Égypte, désobéissant ainsi à l'Éternel. Ils allèrent jusqu'à Daphné. Versets 4 à 7. Daphné est une ville égyptienne du delta du Nil. Voilà donc les descendants d'Abraham à nouveau en Égypte sur la case retour qui est encore pire que celle départ. En abandonnant Juda, ces Israélites quittent le champ de la protection de Dieu et tombent sous son jugement comme tous ceux qui désobéissent à sa parole. Je finis le chapitre 43 en compressant. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie. « Prends quelques grosses pierres et enfouis-les sous leurs yeux dans le sol argileux de la terrasse qui se trouve en face de l'entrée du palais du Pharaon à Daphné. Puis tu diras à ces gens, « Je vais faire venir mon serviteur Nabuchodonosor et j'installerai son trône au-dessus de ces pierres que j'ai enfouies. » Il mettra en pièces les obélisques sacrés d'Héliopolis en Égypte et il mettra le feu au temple des dieux des Égyptiens. Versets 8 à 10 et 13. Héliopolis veut dire « maison du soleil ». Cette ville, dont les ruines sont situées à une dizaine de kilomètres au nord-ouest du Caire, est appelée On dans la Genèse. C'était un sanctuaire dédié au dieu du soleil, Ra, qui était célèbre à cause de ses nombreux obélisques. Leur destruction symbolise la chute du paganisme égyptien. Le roi de Babylone est un tyran ordinaire ayant des vues expansionnistes. Cependant, et sans le savoir, il est le serviteur de Dieu dans le sens qu'il est son instrument de jugement. Jérémie effectue ici un nouveau mime prophétique pour dire que les Israélites réfugiés en Égypte ne sont pas à l'abri du danger. En effet, selon des tablettes babyloniennes, Nabuchodonosor attaqua l'Égypte à deux reprises. Je commence maintenant à lire le chapitre 44. Voici le message que Jérémie reçut pour tous les Juifs installés en Égypte et demeurant à Migdol, à Daphné, à Memphis et dans la région de Patros. Verset 1. Ces villes et régions sont respectivement à l'est du delta du Nil et dans la vallée du Nil. Il y avait en Égypte deux sortes d'émigrés juifs. Ceux qui s'y étaient implantés depuis longue date et qui se trouvaient un peu partout dans le pays, et puis le dernier groupe qui avait forcé Jérémie à les accompagner. Cette nouvelle prophétie fut donnée plusieurs années après l'arrivée du dernier contingent, car plus loin il est dit qu'ils aspiraient à retourner en Juda. Jérémie devait avoir atteint, sinon dépassé, les 70 ans, et cette révélation fut une des dernières qu'il a reçues. Je continue plus loin en compressant. Vous méritez par tous vos actes en offrant des parfums à d'autres dieux en Égypte où vous êtes venus vous installer. Vous vous attirez ainsi la destruction, de même que la malédiction et l'opprobre de la part de toutes les nations de la terre. Avez-vous oublié les méfaits commis par vos ancêtres et ceux des rois de Juda, ces méfaits que vous avez commis au pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Versets 8 et 9. Après avoir évoqué le jugement passé, Jérémie revient à la situation présente et dénonce l'idolâtrie de ses compatriotes, leur infidélité, l'endurcissement de leur cœur et leurs fausses illusions. Il parle bien sûr au nom de l'Éternel. Je continue plus loin en compressant. « Je prendrai ce qui reste des Judéens qui se sont obstinés à venir s'installer ici, et ils seront tous détruits en Égypte. Ils tomberont et périront tous par l'épée ou par la famine. J'interviendrai contre ceux qui sont installés en Égypte, comme je suis intervenu contre Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Il n'y aura ni rescapés ni survivants parmi tous ceux qui restent de Juda et qui sont venus s'installer en Égypte pour retourner ensuite au pays de Juda, où ils désirent tellement retourner pour y demeurer. Mais ils n'y retourneront pas, sinon quelques rescapés. » Versets 12 à 14. Ces sentences de jugement s'adressent à tous les Israélites qui habitent en Égypte. Les derniers à être venus s'installer seront jugés plus sévèrement parce qu'ils ont contrevenu à un ordre direct que l'Éternel leur a donné par l'intermédiaire de son prophète. Ironiquement, les Israélites déportés à Babylone abandonnèrent les fausses divinités et furent ramenés dans leur pays, alors que ceux qui s'enfuirent en Égypte persévérèrent dans l'idolâtrie et périrent, à l'exception d'un petit nombre, qui prit la fuite avant l'arrivée des troupes babyloniennes. Je continue le texte en compressant. « Alors tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient des parfums à des dieux étrangers, toutes les femmes réunies là en grand nombre, et tous les gens du peuple qui habitaient en Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. « Nous refusons d'écouter ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Nous ferons plutôt selon ce que nous avons décidé. » Nous offrirons des parfums à la reine du ciel et nous répandrons nos libations en son honneur, comme nous avons fait, nous et nos ancêtres. Alors nous mangions à notre faim et nous étions heureux, nous ne connaissions pas le malheur, mais depuis que nous avons cessé d'offrir des parfums à la reine du ciel et de répandre des libations en son honneur, nous avons manqué de tout et nous périssons par l'épée et par la famine. » Versets 15 à 19. Ce discours des Israélites témoigne d'une arrogance et d'un fanatisme pire que leurs ancêtres. Ces idolâtres attribuent maintenant leur malheur aux réformes religieuses entreprises par le bon roi Josias lorsqu'il avait essayé de purifier Juda des idoles. La reine du ciel est aussi un des titres que l'Église catholique romaine attribue à Marie, bien que ce titre ait son origine dans le paganisme. Je continue le texte en compressant. Alors, Jérémie parla à toute la foule réunie et leur dit, « L'Éternel n'a pas pu supporter plus longtemps vos agissements mauvais et les actes abominables que vous avez commis. Voilà pourquoi votre pays est devenu un champ de ruines, une terre dévastée et maudite où personne n'habite plus, comme c'est actuellement le cas. » C'est parce que vous avez offert ces parfums et que vous vous êtes rendu coupable envers l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté l'Éternel et que vous n'avez pas vécu dans l'obéissance à sa loi, à ses ordonnances et ses prescriptions, que ce malheur vous a atteint, comme c'est actuellement le cas. Eh bien, accomplissez donc vos vœux. Oui, tenez vos engagements jusqu'au bout. » Versets 20 à 25. Avec une ironie caustique, Jérémie encourage les Israélites à continuer à offrir des parfums et répandre des libations aux idoles. Mais il leur rappelle aussi qu'ils se condamnent eux-mêmes. Je continue en compressant. « Je vais veiller sur eux pour leur malheur et non pour leur bien. Tous les Judéens qui sont en Égypte périront par l'épée ou par la famine jusqu'à leur extermination. » Seul un petit nombre d'entre eux échapperont à l'épée et retourneront d'Égypte en Juda. » Versets 27 et 28. Deux siècles plus tard, au temps d'Alexandre le Grand, il existait une colonie juive nombreuse et florissante en Égypte qui avait probablement été fondée par des immigrés qui étaient arrivés quand Juda était sous domination perse. Je finis le chapitre 44. Et voici un signe. L'Éternel le déclare, pour vous prouver que je veille sur vous en ce lieu-ci et pour que vous sachiez que mes paroles s'accompliront pour votre malheur. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais livrer le pharaon Ophra, roi d'Égypte, à ses ennemis et à ceux qui en veulent à sa vie, tout comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, à son ennemi Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui en voulait à sa vie. Versets 29 et 30. Suite à la première invasion babylonienne, Ophra était devenu vassal de Nabuchodonosor. Mais à son retour d'une expédition catastrophique contre la Cyrénaïque, une région située au nord-est de la Libye, il fut assassiné par Amasis, qui prit sa place et qui se révolta contre Nabuchodonosor, ce qui entraîna la seconde invasion de l'Égypte par les Babyloniens et l'accomplissement des prophéties de Jérémie. Ce que Dieu annonce dans sa parole se réalise toujours.